On va l'ensemble dans un mot de prière, puis Esther va nous lire ce beau passage dans l'Évangile de Jean. Je vous invite toujours à suivre avec nous dans les Écritures, à porter vos Bibles, à lire avec vos yeux. On veut s'imbiber de la parole de Dieu. On va l'ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. J'ai entendu ta voix. Spirituellement, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton témoignage, j'ai reçu ton témoignage. Ton témoignage a pénétré mon cœur, mon âme, il y a de cela des années. Et alors que mon cœur était troublé cette semaine, en apprenant le décès du papa de Julie, en apprenant le décès de Nick, le fils de Tim, alors que mon cœur était troublé, j'étais personnellement dans la sécurité, Seigneur. J'étais en paix pour ma propre vie. Mais je te prie, Seigneur, de venir nous parler ce matin de ta gloire, de ta majesté, de ta grandeur, de l'autorité que tu as de donner la vie et de déposer un jugement sur les hommes. Seigneur, viens nous parler de l'urgence de présenter les témoins puissants de Jésus-Christ aux hommes autour de nous. Viens nous convaincre, Seigneur, d'ouvrir la bouche comme cette femme samaritaine qui est partie en courant à son village. Elle voulait immédiatement parler du Messie. Seigneur, que nous soyons à notre tour des témoins de ce puissant témoignage qu'on trouve dans les Écritures envers le salut qu'on trouve en toi, Jésus. Je prie de parler à nos cœurs ce matin par ta parole. De nous élever, Seigneur, dans la louange, l'adoration, de nous attirer à toi si on ne te connaît pas déjà. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
« 25 à 47 dans la nouvelle édition de Genève. Jean 5, 25 à 47. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?
Merci, Esther. C'est bon de prendre le temps de lire la parole le dimanche matin, puis de réaliser que c'est vraiment le ministère de la parole. On va voir ensemble que les Saintes Écritures sont témoins de Christ. Et c'est ça qu'on fait le matin. Le dimanche matin, on prend le temps de lire les Écritures, on prend le temps de déposer nos regards, puis laisser l'Esprit-Saint nous parler. Ce matin, le plan de l'exposé se retient bien. J'avais l'impression d'entendre la voix de François Pérusse dans mon oreille. 2-4-2, 2-4-2, ça va? 2 résurrections, 4 témoins, 2 gloires. Ça se retient bien? 2 résurrections, 4 témoins, 2 gloires. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Toutes les Écritures racontent l'histoire de la gloire du Fils de Dieu. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Vous allez avoir l'impression peut-être que je me répète un peu dans Jean, puis que tous les exposés reviennent à la même chose. Mais Jean est en train de nous révéler le message le plus important de toute la Bible. Et si c'est le message le plus important de toute la Bible, c'est le message le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est le message le plus important pour ton âme, pour mon âme, pour ta vie, pour ma vie, pour la vie éternelle. Toutes les Écritures racontent l'histoire de la gloire du Fils de Dieu. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. 2 résurrections. Il est question de 2 résurrections. C'est rare dans les Écritures que cette idée-là qu'on passe par 2 résurrections est mise de manière aussi succincte, claire, rapprochée. On peut voir les nuances puis les parallèles. La première résurrection est spirituelle. La première résurrection est possible maintenant. Elle est déjà disponible. Au verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. » Donc, du temps de Jésus, c'était déjà arrivé. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. De quelle mort est en train de parler? C'est qui ces morts-là qui entendent une voix? C'est qui ces morts-là qui pouvaient déjà ressusciter parce que l'heure était déjà venue? Mais Jésus est en train de faire allusion à ce qu'il enseignait à Nicodème. Jésus a enseigné à Nicodème qu'il y avait une nouvelle naissance, il fallait naître de nouveau. Les Saintes Écritures nous enseignent qu'à cause du péché, on est mort dans nos péchés. Nous sommes spirituellement morts. On est incapable d'une vie divine, je vais le dire comme ça. On est incapable d'une vie de communion avec Dieu réelle à cause du péché. On a hérité ça, on est pécheurs. Si vous en doutez, ben vous aurez des enfants peut-être un jour. Ça va vous prendre quelques mois, vous allez comprendre qu'ils sont pécheurs, eux aussi. Ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne ça à l'école. Non, non, ils le trouvent tout seuls, des petits cœurs un peu rebelles. Et donc, Jésus avait dit à Nicodème, il faut passer par la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Ça prend une vie nouvelle, ça prend une vie de résurrection. Et c'est à ça que Jésus est en train de faire allusion ici. Il dit, cette vie nouvelle-là est possible maintenant. Tous sont morts dans leur péché. Tous sont séparés dans leur communion avec Dieu. Et il y a une résurrection qui est possible maintenant. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Maintenant, ça veut dire quoi entendre la voix de Jésus? Jean va clarifier ça au fur et à mesure qu'on avance, mais déjà dans ce chapitre-là, ça va devenir pas mal clair. Ça veut dire quoi, entendre la voix de Jésus? C'est une des choses que je répète déjà depuis qu'on est dans Jean, puis je vais le répéter encore. C'est comme un thème à travers l'Évangile de Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, entendre la voix de Jésus? Parce que si vous êtes chrétien, vous avez entendu sa voix. Le texte est clair. Si tu es chrétien, tu as entendu sa voix. Si tu n'entends pas sa voix, tu ne peux pas ressusciter. C'est impossible. Donc, ça veut dire quoi? Moi, est-ce que j'ai entendu la voix de Jésus? Et puis, si Dieu t'appelle, comme on va le voir dans Jean, si Dieu t'appelle à croire en Jésus, il va te faire entendre sa voix. C'est quoi cette voix-là dont il est question ici? La deuxième résurrection est une résurrection éternelle. Versets 28-29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. » Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Donc, il y a des nuances, là. L'heure vient, mais elle n'est pas encore venue. Ce n'est pas mentionné qu'elle est venue. Puis là, ce sont les morts qui sont dans les sépulcres. On parle peut-être d'une autre mort ici. Car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus parle d'une heure qui n'est pas venue dans ce cas-là. C'est une heure qui est à venir. C'est une heure qui est future. Et ce sont tous les morts qui sont dans les sépulcres, les morts physiques, qui vont entendre encore une fois sa voix et qui vont ressusciter d'entre les morts. Certains vont ressusciter pour la vie éternelle. D'autres vont ressusciter pour passer en jugement. Certains vont ressusciter et n'iront pas en jugement, comme si leur jugement avait déjà été accompli. Et d'autres vont ressusciter pour passer en jugement. C'est vraiment un beau passage où tu as les deux résurrections. C'est un beau passage à ouvrir avec un ami qui veut essayer de comprendre c'est quoi le christianisme, c'est quoi vous croyez, c'est quoi ton affaire, explique-moi ça, tu t'en vas là. Il va te trouver complètement flyé, tu parles de résurrection. Mais quand même, c'est vraiment un beau passage pour aider à comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous. Et Jésus nous dit que ce jour-là, lorsque tous les morts vont entendre la voix de Jésus, tous vont ressusciter. Certains, ça va être pour la vie éternelle, et d'autres, ça va être pour le jugement. Donc, ce qui est implicite dans le texte, puisqu'ils sortent des sépulcres, c'est que ça se décide avant. Ton éternité est décidée avant que tu rentres dans le sépulcre. Ton éternité est décidée avant que tu envoies ton dernier souffle. C'est ça qui est implicite dans le passage. Parce que lorsqu'on ressuscite, il y en a qui ne ressuscitent pas pour le jugement. C'est comme s'ils sont épargnés du jugement. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous parlez avec un ami québécois, parce que les Québécois, c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé surtout avec des Québécois qui sont ici depuis longtemps, là, des vieux immigrants. Ils vont me dire, ah, je vais manger avec le bonhomme de l'autre bord. Pratiquez-vous devant votre miroir juste à répondre. Écoute, j'espère pour toi que Jésus est un menteur, parce que sinon, tu es foutu. Juste vous pratiquer à faire ça. J'espère que Jésus est un menteur pour toi, parce qu'autrement, tu es foutu. Parce que Jésus dit que non, ça se décide ici, tu ne t'arranges pas avec lui de l'autre bord. C'est ce que tu fais avec lui ici qui décide ce qui se passe de l'autre bord. Après, c'est décidé, c'est réglé. Puis, moi, je te suggère juste de lire un peu la Bible. Va lire un peu l'Évangile de Jean. Je ne suis pas sûr que ça va être aussi facile pour toi de dire que Jésus est un menteur. Ça se peut que ça te trouble un peu. Mais, en tout cas, je serais inquiet à ta place de te dire « je vais m'arranger avec lui de l'autre bord ». Il y a des négociations qui se font avant, pas après. Donc, il y a deux résurrections. Une résurrection spirituelle qui est disponible maintenant. Elle vient lorsque j'entends la voix de Jésus. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est croire en Jésus. Et l'autre résurrection, bien, pour certains, ça va être pour la vie, d'autres, ça va être pour le jugement. Et la question qui est posée, c'est ceux qui font le bien, ceux qui ont fait le bien, vont ressusciter pour la vie éternelle. Ceux qui ont fait le mal vont ressusciter pour le jugement. De quoi on parle? C'est quoi faire le bien? C'est quoi faire le mal? Regardez versets 26-27. « Car comme le Père a la vie en lui-même, et ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, il lui a donné le pouvoir de juger. » Parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bien dans Jean? On va le voir au fur et à mesure dans le chapitre. Faire le bien dans Jean, c'est une seule chose, c'est croire en Jésus. C'est tout. Faire le mal dans Jean, c'est ne pas croire en Jésus. Jusqu'ici, ce n'est pas super clair. Pourtant, pensez à la femme samaritaine. On a vu ça il y a quelques semaines, la femme samaritaine. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? C'était une femme qui avait une vie déréglée. Puis elle a cru en lui. Elle a cru en Jésus, elle s'est mise à parler de Jésus. Puis de toute évidence, c'est quelqu'un qui fait le bien. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cru. Fait que moi, je vous suggère que dans Jean 5, ce qu'on voit, c'est que faire le bien, c'est croire en Jésus. Je vous suggère qu'il n'y a aucun être humain qui va se présenter devant Dieu et qui va dire, « Bon, Seigneur, on passe au bilan, je vais sortir toutes mes bonnes œuvres. » Puis, je m'en viens faire mes comptes avec toi. Je veux savoir qu'est-ce que je peux m'acheter dans l'éternité comme un petit spot de retraite. Non. La bonne œuvre, c'est d'avoir l'humilité d'écouter Jésus, de recevoir les témoignages puis croire en lui. Toute notre éternité va se jouer sur une seule bonne œuvre, celle d'avoir cru en Jésus-Christ ou non. Et ce que Jésus fait dans ce passage-là, c'est qu'il plaide avec nous pour qu'on écoute les témoins puissants qui rendent témoignage à lui, à son œuvre. Pas parce qu'il veut notre attention, parce qu'il veut qu'on ait la vie. Il veut qu'on ait la vie éternelle. Quatre témoins, donc deux résurrections, ça va, 2-4-2. Deux résurrections, quatre témoins. Jean-Baptiste, premier témoin, verset 33, vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus. Jésus a rendu témoignage, Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus. Verset 34-35, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Les gens ont été fascinés par Jean. Quand il est arrivé, c'était un gars spécial, c'était un gars étrange, vivait dans le désert, mangeait des sauterelles, criait au peuple, « Repentez-vous! » Ils ont compris, OK, lui, je pense que c'est un prophète. C'est un prophète de Dieu. Puis les gens étaient touchés, ils recevaient le message, trouvaient ça excitant. Ils vivaient comme une espèce de réveil. T'sais. C'est comme, « Oh oui, on va aller se faire baptiser, on va se consacrer à Dieu. » Mais Jean, c'était juste une petite étincelle qui passait vite, qui pointait. C'était un prophète. Comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils pointaient dans la direction du Messie. Jean n'était pas le Messie. Là, les gens ont trippé, gros réveil spirituel. Il y avait des foules, ils faisaient des gros happenings, tout le monde allait là. Oui, on va marcher avec Dieu. Puis, vous étiez excités d'écouter Jean, mais Jean parlait de quelqu'un d'autre. Il parlait de moi. C'est juste un témoin de la vérité. Je suis la vérité, c'est moi la vie. Il pointait dans ma direction. Est-ce que vous êtes capable de l'écouter, puis pas juste vivre un trip spirituel, mais vraiment entendre son message? Il pointait vers moi. Premier témoin, Jean-Baptiste, un prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui pointait dans la direction du Christ. Deuxième témoin, Dieu le Père, verset 37-38. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. » C'est drôle encore cette idée-là de voix. « Vous n'avez point vu sa face. » Mais non, il est invisible. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Mais rendu ici dans le texte, on sait c'est qui a envoyé, c'est Jésus. Et donc le Père a rendu témoignage au Fils en appuyant les œuvres du Fils, en bénissant les œuvres du Fils. Il n'y a personne qui lit les évangiles et qui se dit, si ce Jésus-là y a existé, c'est un gars bien ordinaire. Il n'y a personne qui pense ça. Tout le monde qui lit les Écritures a deux options. Soit que ce n'est pas vrai, c'est un mythe tout ça, ou c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Non seulement par ses enseignements, ses paroles, mais par ses œuvres aussi, par les miracles qu'il a fait, par son attitude de cœur. C'était un homme hors norme. Ou bien il n'existait pas. Mais il faut que tu clarifies ça avant de traverser de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Tu ne t'arrangeras pas avec le bonhomme de l'autre bord, je te l'assure. Le deuxième témoin, c'est le Père. Troisième témoin, c'est les œuvres du Christ. Verset 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Il dit, « C'est bien, j'avais des prophètes qui parlaient de moi, mais vous avez vu mes œuvres. Vous m'avez vu agir. Il est en train de faire des œuvres. Il est en train de guérir des malades. » Puis les gens croient parce qu'ils voient les œuvres. Mais il croit en lui à ce moment-là. Il va faire des œuvres plus grandes encore. Il va ressusciter des morts. Il va ressusciter lui-même des morts. Il va créer son Église. Quelle œuvre extraordinaire, l'Église de Jésus-Christ. Suivez le fil de l'histoire de l'Église à travers 2000 ans d'histoire, dans des pays où les chrétiens sont appréciés, dans des pays où les chrétiens sont haïs, sont détestés, dans des pays où on veut les faire disparaître, puis ils continuent à se multiplier. J'ai déjà cité souvent l'Église ici, Tertullien, un des pères de l'Église, a écrit à l'empereur, « Continuez à nous faire mourir, continuez à nous déchiqueter dans vos cirques. Notre sang est une semence de chrétiens. » Parce que les gens allaient voir les chrétiens mourir dans les arènes. Puis les gens étaient édifiés. Certains, d'autres, ils étaient sur la fête. Tu sais. Des brutes, des monstres qui se réjouissaient de voir des gens se faire tuer. Mais certaines personnes entendaient la voix de Jésus à travers le témoignage des chrétiens qui mouraient martyrs. Puis Tertullien a dit, « Notre sang est une semence de chrétiens. Continuez à nous faire mourir. On se multiplie plus rapidement. » L'Église est un miracle. Littéralement un miracle. La plus belle œuvre de Jésus-Christ, c'est l'Église. Et donc Jésus dit, j'ai un témoignage qui est vraiment plus grand que le témoignage de Jean. Jean pointait vers moi, c'est un prophète, mais regardez ce que j'ai fait, ce que le Père m'a donné de faire. Je fais tout ce que le Père fait. Je donne la vie, comme le Père. Je pardonne, comme le Père. Je fais les œuvres du Père. Dieu me donne de faire les œuvres de mon Père. Ces œuvres-là rendent témoignage de moi. C'est le troisième témoin. Jean-Baptiste, le Père, les œuvres de Christ, quatrième témoin. Et dans un sens, pour nous, le plus important, parce qu'on vit 2000 ans après Jésus, je ne peux pas aller le voir faire un miracle physiquement, guérir un malade, lui en chair et en os. Ce qu'il nous reste à nous, c'est le quatrième témoin. Ce sont les Saintes Écritures, versets 39-40. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Les Juifs étudiaient la Bible en disant, « Je vais apprendre qui est Dieu, je vais apprendre comment vivre selon Dieu, je vais apprendre comment plaire à Dieu, je vais apprendre comment être un bon Juif, je ne dirais pas un bon chrétien. Je vais apprendre tout ça, donc ça va me donner la vie. Ça va me donner des bons principes de vie, je vais plaire à Dieu. » Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que Jésus est en train de développer, mais entendre la voix de Jésus, c'est entendre les témoins. Entendre la voix de Jésus, c'est recevoir le témoignage des témoins. Pour les gens du village de la Samaritaine, ça commençait avec un témoin vivant. Ils sont allés témoigner, puis ensuite de ça, ils sont venus rencontrer Jésus, puis là, ils ont entendu ses paroles. Mais Jean-Baptiste aussi a témoigné de Jésus. Puis nous, on a les paroles de Jean-Baptiste. Puis le Père a témoigné de Jésus en lui donnant de faire des œuvres grandes. Les œuvres que Jésus a faites ont témoigné de lui. Et toutes les Saintes Écritures témoignent de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Et nous, on a les Saintes Écritures. Jésus, à l'époque, disait aux Juifs de l'époque, il dit, vous sondez l'Ancien Testament en essayant de trouver la vie, mais l'Ancien Testament pointait vers moi, annonçait ma venue. Jésus-Christ est la clé pour comprendre tout l'Ancien Testament, pour comprendre toute la Bible. Essayez de comprendre les sacrifices d'animaux. OK, on est des pécheurs, il faut sacrifier des moutons, il y a du sang, puis là, Dieu nous pardonne parce qu'on a sacrifié des moutons. C'est tellement barbare si ça s'arrête là, cette histoire-là. Non, c'était symbolique. C'était un symbole. On faisait une fête, on mangeait cette viande-là, on brûlait une partie sur l'autel, on partageait avec des pauvres. On fêtait quelque chose qui s'en venait de beaucoup plus grand. C'était juste un symbole. C'est un symbole qui annonçait Christ. Tant que Christ n'est pas là, c'est comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Sacrifie les animaux, puis là, on a sacrifié les animaux. C'est quoi? Christ est la clé d'interprétation pour comprendre tout l'Ancien Testament, parce que tout l'Ancien Testament pointait dans sa direction à travers les prophètes, à travers le système sacrificiel. Parce que l'Ancien Testament m'aide à comprendre qu'il n'y a aucune religion sur la terre qui peut faire que je vais être prêt à rencontrer le bonhomme de l'autre bord. Je veux dire, s'il y avait une religion qui pouvait préparer, c'était les Juifs, c'était l'Ancien Testament. Je veux dire, il y avait tout, il y avait la loi de Dieu. Si c'était possible, avec un code, le décalogue, les 10 lois de Moïse, de transformer le cœur humain, je veux dire, le peuple juif aurait été un peuple extraordinaire. Mais non, c'est l'histoire de gens qui sont incapables d'obéir. C'est la démonstration perpétuelle dans l'Ancien Testament qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Même la religion de Dieu ne peut pas te sauver parce qu'on n'est pas capable d'obéir par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y avait des sacrifices, parce qu'il était incapable d'obéir. Et donc ça aussi, ça pointait. Toute l'histoire d'Israël, quand je lis cette histoire-là, ça pointe constamment vers l'échec de l'homme à se sauver par lui-même, à se préparer par lui-même à rencontrer le bonhomme de l'autre bord. Tout l'Ancien Testament annonce ça. Puis là, j'arrive dans le Nouveau Testament, je rencontre Jésus. Là, je dis, OK, attends un peu. Là, je voyais, il y avait quelque chose en filigrane dans l'Ancien Testament de mystérieux. Il y a un Messie qui s'en vient, ça va être un roi, il va mourir, il va prendre nos péchés. Je ne comprends rien. Boum, Jésus arrive. Là, on le découvre. Il fait les œuvres de son Père. Il est plus grand que nature, il est plus qu'un homme. Il est Dieu fait homme, c'est Dieu le Fils. Quand il parle, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. On dirait que je lis l'Ancien Testament quand il parle, plus clair encore que l'Ancien Testament. Oui, c'est lui la parole de Dieu, c'est lui qui a inspiré l'Ancien Testament, c'est lui qui a inspiré le Nouveau Testament. Puis là, il vient et il donne sa vie pour nous. Il meurt sur la croix pour nos péchés. Toutes les saintes Écritures rendent témoignage de Jésus. L'Ancien Testament l'annonçait. Prépare nos cœurs à comprendre notre nécessité de Christ, de sa grâce, de son pardon, notre nécessité de faire une seule bonne œuvre, croire en Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament nous prépare à ça. On arrive dans le Nouveau Testament, on rencontre Jésus, il est doux, il est humble, il est patient avec les pécheurs, il leur fait entendre sa voix. Il les invite à croire en lui, il leur dit « Je veux vous donner la vie, je veux vous donner la vie, je veux vous donner la vie maintenant, je veux que vous entriez maintenant dans la vie éternelle, je veux vous donner mon Esprit Saint qui va venir faire sa demeure en vous. Vous allez avoir une sécurité, une paix, vous allez savoir que vous êtes ressuscité spirituellement dès maintenant. Et que vous êtes prêts, s'il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a un départ impromptu, vous êtes prêts à aller de l'autre côté pour le jour de la résurrection. » Vous allez entrer dans la vie éternelle. Les parents, pourquoi est-ce qu'on ouvre la Bible avec nos enfants? C'est parce qu'on veut placer devant eux ces quatre témoins-là. On veut qu'ils apprennent à les connaître, qu'ils fréquentent les Écritures. Pourquoi est-ce qu'ici, à l'église, le dimanche matin, on lit la Bible? Parce que c'est les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Nous, on est des témoins de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais c'est les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on enseigne nos enfants à comprendre l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament, tout ça? Parce qu'on veut placer devant eux ces témoins. Puis qu'après ça, ils puissent entendre la voix de Jésus à travers le témoignage de toutes les saintes Écritures. Pourquoi est-ce qu'on veut donner une Bible à un ami puis dire « Hey, va lire un des évangiles, là. » Commence peut-être pas avec les sacrifices. C'est mieux de commencer avec la clé pour débarrer la porte. C'est un peu mêlant si tu commences juste par Genèse. Ça peut être rough un peu. T'sais. Commence par la clé. Après ça, tu recommenceras. Pourquoi est-ce qu'on veut ouvrir les Écritures avec eux? Lorsque je témoigne à un ami, ce que je veux faire, c'est juste ouvrir la Bible avec lui. J'étais avec un jeune homme vendredi. On a ouvert les Écritures ensemble. Parce que c'est les saintes Écritures qui rendent témoignage à Jésus. Maintenant, mon troisième point. 2, 4, 2, ça va? 2 résurrections, 4 témoins, 2 gloires. Jésus dit, ta capacité à entendre ma voix va jouer sur une seule question. De qui cherches-tu l'approbation? Jésus dit, moi, je n'ai même pas besoin des témoins. Je n'ai pas besoin que les hommes rendent témoignage de moi. Je cherche la gloire que mon Père me donne. Je cherche l'approbation qui vient du ciel, l'approbation qui vient de Dieu. Mais il dit, vous cherchez une approbation qui vient des hommes. Cette semaine, on suit même en prière pour que Dieu préserve les États-Unis d'avoir des violences, puis tout ça, le pays est troublé. Puis c'est correct, c'est une démocratie, il faut que ça se fasse, mais on voit aussi des enjeux où des hommes cherchent les approbations des hommes. Les hommes vivent pour la gloire devant les hommes. Les chrétiens, ceux qui ont entendu la voix de Jésus, comme Christ, on cherche seulement l'approbation qui vient de Dieu. Donc, je peux naviguer à travers des eaux troubles où les hommes peuvent porter toutes sortes de jugements sur d'autres personnes, sur moi, sur ma foi, sur ma vie. Puis tout ça, c'est comme une espèce juste de bruit de fond qui est là. n'est pas la voix qui est audible pour moi. Ceux qui aiment la photo, c'est hors champ. Il n'y a rien de précis, c'est flou, c'est un bruit de fond. Ce que les hommes pensent de moi, ce que les hommes diront de moi, c'est hors champ. Mon focus est entièrement sur une personne, c'est sur Christ, parce que lui a donné sa vie pour moi. Et ce que je veux, au jour de ma mort, c'est fermer les yeux, rouvrir les yeux, puis voir la face de Christ. C'est ça que je veux. Je veux qu'ils me disent, tu as cru en moi, tu as entendu ma voix. Les amis ont vu une année qui est troublante, qui est difficile. C'est comme, il faut que tu te disciplines à fermer les nouvelles, arrêter ça. Je vous dis, il faut que je me parle. Arrête, Yannick, arrête. Va prendre une marche. Va parler avec Jésus. Ça va te faire du bien. Va parler avec Dieu. Mais justement, j'ai entendu la voix de Christ. Je peux recevoir une mauvaise nouvelle. On pourrait m'apprendre cette semaine qu'il me reste 2 semaines à vivre. C'est plus de temps que j'en ai besoin pour être prêt à partir. Je vais dire bye-bye à toute ma famille, à tous mes amis. Mais c'est plus de temps que j'en ai besoin pour être prêt à partir. Je suis prêt à partir tout de suite, immédiatement. Parce que je suis en paix. Je sais qu'il y a 2 résurrections. J'ai déjà passé la première. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ, son esprit habite en moi. J'ai entendu les 4 témoins, ils ont parlé à mon cœur. Et aujourd'hui, je vis pour être approuvé, reconnu par un seul, Dieu qui est dans le ciel. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Venez me rejoindre. Je veux vous encourager à ouvrir les Écritures avec vos enfants. Je veux vous encourager à ouvrir les Écritures lorsque vous voulez parler de Jésus. Je veux vous encourager à connaître les Écritures pour pouvoir présenter Christ partout dans la Bible. C'est une des particularités à l'Église de l'Espoir. On croit que toutes les Écritures nous parlent de Jésus. Et donc, lorsqu'on dit qu'on est centré sur l'Évangile, vous remarquerez qu'on soit dans n'importe quel passage de la Bible. On va aider à voir où, comment la vie et l'œuvre de Jésus nous aident à comprendre ce passage-là. Et donc, je veux vous encourager à ouvrir une Bible. À ouvrir une Bible quand vous témoignez. À ouvrir une Bible pour vous-même pendant la semaine, à l'ouvrir puis à vous placer devant les témoins du Christ, juste pour aller retrouver cette paix-là de dire, « Seigneur, j'ai cru en toi. Je sais où je m'en vais. Je connais mon éternité, Seigneur. Je suis en paix avec toi. » Et si tu commences à entendre la voix de Jésus, moi, je t'invite à placer ta foi en lui. Au fur et à mesure que tu vas être ici avec nous, tu vas entendre parler des témoins. On expose les Écritures dimanche après dimanche. Tu vas entendre les témoins parler. Mais il y a un moment, j'espère pour toi, où ce que tu entends sortir de ma bouche, ce que tu lis, va résonner à l'intérieur de toi. Cette voix-là, c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui commence à ouvrir les yeux de ton cœur pour saisir qui est Jésus-Christ. Puis là, il y a quelque chose qui va se passer. Ton focus sur cette vie, sur cette terre, va se déplacer pour être juste sur Dieu, puis ça va être la voix prépondérante. Tu vas dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de m'appeler à toi? Est-ce que tu m'appelles à croire en Jésus? Est-ce que vraiment ce serait lui le chemin, la vérité et la vie? Si tu entends sa voix, continue, porte attention. Porte attention, Dieu veut te donner maintenant la vie éternelle. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, on ne pourrait pas aller ailleurs chercher la sagesse qui pourrait nous sauver. C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Les hommes sont troublés. On est en année de pandémie. Il y a des tensions chez notre géant voisin, Seigneur. Et nos cœurs trouvent la paix lorsqu'on refait le focus sur toi, Seigneur, lorsqu'on vient t'adorer. On est prêt à partir à chaque instant, à tout moment, Seigneur. Tu peux venir me chercher, je suis prêt, je suis en paix. Ce n'est pas de l'arrogance, je ne me présenterai pas devant Dieu avec prétention. Non, je vais me présenter en prononçant un seul nom, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois béni, reçois nos louanges, reçois notre adoration ce matin. Viens, Seigneur, saisir nos cœurs par ton Esprit Saint, afin qu'on soit remplis de cette paix, de cette joie, de savoir que nous avons entendu ta voix. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir les Écritures lorsqu'on parle à nos enfants à la maison, d'ouvrir les Écritures lorsqu'on parle avec un collègue, un ami, de les amener vers ces témoins qui sont tous là dans l'Écriture, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Amen.